Bonjour à tous, nous sommes en direct sur Radio Esperanza. Nous accueillons ici donc Lord Esperanza. Alors, à la base, on était sur le blog du thème La domestication du mouton, parce qu'on était censé être mis dedans. Alors, ma première question, c'est est-ce que tu t'es déjà senti comme un mouton à l'école ou ailleurs?
C'est une belle question pour commencer. Bonjour, merci de me recevoir. Je suis très heureux d'être ici. Oui, je crois que comme nous tous, dans ce système quelque peu grégaire et conformiste, il m'est arrivé de me sentir comme un mouton. Surtout, oui, dans les premières années du collège et tout, parce que c'est un âge où on se cherche tous, on est à la quête de notre identité, et du coup, on essaye de se rattacher à des exemples ou à des idoles qui, malheureusement, sont souvent des choses conformisées, régies par le capitalisme. Donc, ça va passer par les marques, forcément, puisque c'est des éléments de reconnaissance. Le choix des goûts culturels, donc que ce soit le cinéma ou la musique, et ah non, lui, faut pas l'aimer parce qu'il est pas cool. Et 3 ans après, ah, si tu l'aimes, c'est bon, t'es dans le
C'est
coup.
ça.
Donc, ouais, comme nous tous. Et après, je pense qu'en grandissant, en faisant ses recherches, en lisant aussi d'autres auteurs, en essayant d'aller un peu à l'encontre des sentiers déjà tracés, on peut commencer à trouver d'autres sources et du coup à se créer une personnalité. Mais en réalité, on porte toujours un masque. Ici même, on porte un masque. Après, la question, c'est de savoir à quel degré et si on est capable de le conscientiser, je crois.
Justement, en parlant d'école, j'ai vu qu'à 18 ans, tu signais déjà chez Modulor. Et je me demandais, est-ce que tu as pu continuer tes études? Ou est-ce que tu trouvais que c'était ta voie était tracée dans la musique et tu n'en avais pas besoin ou pas envie? Enfin, voilà.
En fait, oui, c'est un petit label indépendant qui s'appelait Modular qui m'a trouvé. Je faisais 300 vues. C'était par le biais d'un partage Facebook d'un de mes amis qui avait dans ses amis un chercheur de tête de ce
Ah oui,
label-là.
d'accord.
Et donc, je suis très reconnaissant envers eux parce qu'à cette époque-là, j'avais aucune confiance en moi. Bon, je dis pas que j'en ai beaucoup plus depuis, mais un chouïa plus. Et puis, ouais, ils m'ont surtout donné la chance de pouvoir croire. En ce que je faisais, et c'était quand même un témoignage de gens professionnels dans le milieu de la musique, donc ça n'avait pas de prix à 18 ans. Et en parallèle de ça, je faisais des études de communication. J'ai entamé une licence que j'ai jamais finie parce qu'à un moment, en fin de première année, après l'avoir redoublé une première fois, donc c'était après la deuxième première année, j'ai eu la chance d'apparaître sur un morceau avec Django qui a eu de la visibilité. Et moi, j'avais déjà prévu plein de clips, j'avais tourné plein de trucs en amont de ça. Et je me suis dit, ok, faut que j'y aille à fond, c'est mon rêve d'enfant, quitte à ne pas avoir de regrets plus tard, mais au moins, faut que je me lance. Et j'avais pas, je crois, l'intelligence logique nécessaire pour être capable de travailler mes textes et travailler à la
À
fac,
l'école,
quoi.
ouais, c'est
Et
ça.
en fait, j'ai jamais eu trop la méthodologie et tout, j'étais pas très scolaire, en fait. J'ai eu mon bac un peu avec chance, en me basant sur des matières que j'aimais bien et tout, mais.
D'accord.
En gros, ouais, c'est le seul truc dans lequel j'ai vraiment beaucoup travaillé dans ma vie et dans lequel je travaille aussi énormément aujourd'hui, c'est la musique et tout ce qui s'y rapporte, l'image, les clips, les trucs et l'écriture de texte. Mais le reste, j'ai un baobab dans la main.
D'accord. Et justement, en étant si jeune, lancée dans la musique, comment tu as réussi à gérer ta vie privée, ta vie professionnelle?
Bah, en ne mettant des barrières, je crois, tout simplement. Après, c'est vrai que. Il faut faire attention, mais on peut le comprendre qu'avec les expériences, en fait. C'est quelque chose que tu sais pas forcément au début. Et d'ailleurs, je me livrais peu sur moi-même. J'avais ce personnage un peu lord et tout ce truc un peu arrogant derrière lequel je me cachais, mais qui en fait reflétait juste un terrible manque de confiance. Et du coup, j'essayais de camoufler comme je pouvais parce que quand tu commences à mettre tes premières vidéos à 15-16 ans sur Internet, bah, forcément il y a des commentaires, des
Ouais, mais
dislikes, des trucs machin. Et c'est normal, hein, ça fait partie du concept puisque tu te livres et tout. Mais du coup, oui, c'est vrai que j'étais pas forcément au début très, très prêt pour ça. Mais j'ai eu la chance, du coup, de me prendre très rapidement des retours très élogieux et très négatifs. Ce qui a fait que je crois que j'ai pu construire un équilibre. Et aujourd'hui, ça m'atteint, ouais, enfin, quasiment plus, quoi, forcément, parce que j'essaye de remettre en question. Mais par contre, j'aime beaucoup les critiques constructives. Quand il y a un vrai fond sur une analyse, il y a des gens qui m'envoient des pavés entiers pour dire pourquoi ils ont aimé ça, pourquoi ils ont moins aimé ça, etc. Ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que du coup, ça permet la remise en question. Mais la méchanceté gratuite, c'est juste l'expression soit de la jalousie, soit du manque de confiance en soi, soit de problématiques des existences de chacun. Je pense qu'il y a des gens qui souffrent d'eux-mêmes et qui, du coup, à travers Internet, trouvent un exutoire pour pouvoir relâcher leur névrose, ce qui se comprend, hein. On a créé ce monstre-là, donc c'est normal qu'il nous dépasse sur certaines dimensions.
T'as déjà un bon recul par rapport aux commentaires et autres que tu peux avoir, apparemment, t'arrives à...
Oui, bon, après, je dis ça forcément, hein, si demain tu me lis 5 commentaires négatifs, ça fera toujours quelque chose, parce que c'est de la musique et que du coup c'est... Mais en fait, il faut bien comprendre que la personne en question, elle s'attaque à Lord Esperanza et pas à Théodore.
Oui, c'est ça.
Ou à... je sais pas à quel artiste et pas à son prénom et à la personne qu'elle représente.
Ouais.
Et quand tu conscientises ça, déjà, tu souffles un peu.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'au début, la frontière est mince, parce que du coup... Là, je te parle en tant que Théodore, mais en même temps, je suis là pour être Lord Esperanza. Enfin, c'est tout un... Donc, je suis la même personne, mais c'est quand même... Enfin, là, tu vois, je vais monter sur scène. Je vais être très différent, beaucoup plus énergique et tout. Donc, c'est tout un cheminement qu'il faut essayer d'intérioriser. Mais c'est cool. J'ai une chance inouïe d'être là, d'avoir des gens qui me suivent et tout. Pour rien au monde, je ne voudrais changer ça.
D'accord. En parlant de Lord, moi ça m'a fait tilter quand j'ai vu ce mot-là, parce que je suis fan d'Harry Potter.
Ouais.
Du coup, Lord Voldemort.
Ouais,
et je me suis dit, mais pourquoi Lord? Parce que Esperanza, j'ai vu. J'ai cherché dans les interviews ou autres que tu avais déjà eues. Mais Lord, je n'ai pas vu pourquoi.
En fait, effectivement, Esperanza, c'est pour Vendredi ou la vie sauvage de Michel Tournier, qui est une réécriture de Robinson Crusoe. Et en fait, c'est le nom que Robinson donne à l'île afin de garder espoir. Donc, il est au milieu du Pacifique sur une île déserte. Et j'aimais bien cette idée d'espoir. Et aussi étrange que ça puisse paraître, j'avais pas forcément conscientisé vraiment que ça incarnait l'espoir. Je le savais, c'est marqué dedans. Et t'as pas besoin de parler la langue espagnole ou italienne pour le comprendre. Mais je sais pas, je l'ai compris bien après qu'en fait, j'avais envie de donner de l'espoir aux gens. Chose que j'essaie le plus possible de faire dans mes textes.
Mmh.
Et l'ordre, du coup, c'est venu après parce que je faisais autant des chansons un peu fragiles, quoi, un peu romantiques, sur mes faiblesses, mes craintes, mes doutes, que des chansons plus engagées ou plus égotripes aussi, puisque c'est un truc important dans le rap depuis des décennies maintenant. Et du coup, je crois que j'avais cette dualité et que j'avais envie de la garder. Et je me suis rendu compte aussi un peu plus tard que du coup, j'avais de l'espagnol italien, de l'anglais et que je rappais en français dans le même nom. Donc ça faisait un peu un melting pot culturel, quoi.
D'accord.
C'est marrant, en fait. Pareil, c'est des trucs que j'ai fait sans conscience, en fait.
Oui, c'est ça. D'accord. Moi, je suis une passionnée de littérature. Et j'ai vu qu'apparemment, tu l'étais aussi, la littérature et les arts.
Mmh.
Et je me demandais, dans les arts, qu'est-ce que c'était exactement? Parce que ça reprend beaucoup. Est-ce que c'est plus dans les peintures, dans la sculpture, ou dans les dessins, ou dans autre chose, rien à voir ou...
C'est peut-être une réponse un peu bateau, mais je crois que c'est partout où il y a de la beauté. Parce que la beauté, c'est ce qu'il y a de plus inspirant. Donc ça peut être dans la Vénus de Milo, comme dans une toile impressionniste de Monet. Enfin, je ne crois pas qu'il y ait de limite à ça.
D'accord.
Et c'est comme dans la musique. D'ailleurs, j'aime autant écouter... Booba que Brel ou Mozart que Stromae, tu vois, je crois pas que ça soit antinomique, en fait, bien au contraire, ça coexiste.
Ouais.
Et l'inspiration, elle est partout. Et donc, dans les arts, ouais, c'est impossible d'en choisir qu'un. Je crois que même le cinéma, je suis fanatique, j'adore les séries. En ce moment, je les dévore, tu vois, très rapidement, parce que, comme nous tous, je crois, j'ai besoin d'être nourri. Et je crois que vraiment, la beauté est partout. Et si c'est pas dans l'art et dans la littérature, c'est dans la vie en elle-même, dans les relations humaines, dans les déceptions, dans les joies, dans la spiritualité, dans le rapport au monde, la conscience de soi dans l'espace. Enfin, tu vois, c'est des questions que je me pose.
Ça reprend beaucoup,
toute
la beauté en général.
Ouais, parce qu'en fait, elle est omniprésente.
Okay.
Et d'ailleurs, je parle souvent d'amour en interview, mais je parle pas d'amour au sens propre du terme, c'est-à-dire une relation... entre un homme et un homme, ou un homme et une femme, ou deux femmes. Je parle de l'amour comme une énergie universelle. Là, il y a de l'amour, là, en ce moment même, tu vois. C'est pas forcément... on se connaît pas, mais on s'aime parce qu'on se parle, on échange. Enfin,
oui,
tu vois,
ça. Ouais,
c'est pas forcément le terme étymologique, justement. C'est plus le concept, en fait, que je trouve beau, qui nous relie tous et qu'il faut vraiment choyer, parce que il y a beaucoup, de plus en plus d'éléments qui peuvent parfois nous en dissocier, tu vois. On parlait de la société de l'apparence, des égos, des masques, du capital. Enfin, il y a énormément de choses qui font qu'aujourd'hui le lien est plus difficile à créer. Et c'est pour ça que je suis heureux de faire de la musique, parce que j'ai l'impression que c'est un des rares milieux dans lequel persiste encore avec beaucoup de ferveur le pouvoir de l'amour.
Je t'ai entendu parler de musique, que t'aimais bien un peu de tout. Est-ce que t'aimes toujours autant écouter les chansons françaises anciennes que le rap maintenant, vu que apparemment t'aurais découvert plus avec les chansons françaises à la base?
Ben plus quelques chanteurs en fait, pas énormément. Donc c'est quoi? C'est Piaf, Boris Vian, Brel, un peu de France Gall, mais pas grand-chose. Et très récemment, là, mais vraiment il y a genre 2 semaines, je me suis penché sur Souchon, Voulzy, Balavoine et Christophe, notamment. Et après, genre Pierre Perret et tout, mais trucs.
C'est trop cool.
Ouais, j'ai découvert récemment. Non, et en fait, j'ai adoré. Parce qu'encore une fois, il y a de la beauté, il y a de l'émotion, il y a des textes exceptionnels. Et je trouve ça trop, trop bien. Et de toute façon, il y a cette phrase un peu cliché, mais qui est célèbre, qui dit qu'il faut comprendre le passé pour créer le futur. Donc, étant rappeur, je suis obligé d'écouter ce qui a été fait avant dans les textes pour essayer de écrire la chanson de demain, quoi.
Justement, dans tes musiques, dans tes chansons en général, j'ai un peu écouté, etc. Et j'ai vu que tu faisais souvent des featuring avec des gens. Est-ce qu'il y a une personne que tu rêverais de faire un featuring avec?
Ouais.
Qui?
Il est belge. Il s'appelle Stromae.
Oh oui.
Ouais, bah ouais.
Ah, oui.
Pour moi, c'est un des plus grands génies de la musique francophone sur ces 5 dernières décennies. Je suis complètement fan de sa décomplexification, de son universalité, de son aisance à parler de sujets aussi parfois graves ou tristes, et avec toujours la touche musicale, parce qu'il fait tout quoi, de A à Z, des chansons au mix, à l'écriture. Et j'adore sa vision et je suis très, très admiratif de son travail. Et en plus, il est engagé, tu vois, il a pris part notamment sur des sujets qu'on a évoqués, là. Tu vois la chanson Carmen sur les réseaux sociaux et tout, il y a déjà 4-5 ans, quand tu remets dans le contexte, c'était très avant-gardiste. Et je suis pressé, comme la terre entière, je crois, d'écouter la nouvelle chanson qui sortira.
La suite, c'est ça.
Parce que ouais, c'est quelqu'un de très inspirant.
Ah, c'est chouette. Ça fait plaisir pour les Belges aussi d'entendre ça.
Ouais, c'est la fierté absolue.
Oui.
Eden Hazard et Brel.
C'est ça.
Bon, il y en a plein d'autres, mais...
Eh bien, moi, je te le souhaite, que tu aies l'opportunité d'avoir ça. Ce serait vraiment génial. Ça veut dire aussi qu'il reviendrait sur les scènes pour nous.
C'est surtout ça qu'on souhaite avant toute chose.
C'est ça.
Stromae revient, s'il te plaît.
Exactement. Mais oui, quand... Enfin, bon, ça, c'est personnel. Quand j'ai vu qu'il avait ressorti avec Orelsan, qu'il avait fait son featuring, j'étais là, waouh, ouais, c'est génial, il va revenir. Et puis, ah ben non.
Et puis après, il y a eu la vidéo sur le défilé.
Oui, qu'il avait fait à mode, Paris,
Mozart,
je pense.
Ouais,
c'est ça. Et à chaque fois, il y a des petits espoirs, mais... Bon, voilà.
Moi, je pense qu'il a raison de prendre le temps parce que, vu l'album qu'il a fait, Racine Carrée, il y a 4-5 ans, tout était tellement calibré, arrangé et fluide
parfait.
Et parfait. Ouais. Je pense que ça prend un temps fou en fait de composer un album de cette qualité. Donc, et de trouver les thématiques et tout, parce que là, il a parlé de beaucoup de trucs très, très universels. Donc, pour se renouveler, tu vois, ça doit être.
Il y a du thème.
Oui,
s'il faut, on lui en donne.
Ouais. Mais je pense que c'est pour ça qu'il prend le temps. Plus, il a eu son histoire au Rwanda et tout, mais ça va arriver, c'est sûr.
J'espère.
Le monde le demande.
Alors, ben voilà, merci beaucoup d'être venu, malgré la course pour le moment.
Oui, merci à vous de m'avoir reçu.
Bah, avec plaisir. Donc, toi, on pourra te retrouver du coup lors d'Esperanza de 18h15 à 19h15 sur la scène Futuro, c'est ça?
C'est ça.
Voilà, donc venez tous l'écouter, c'est un vrai plaisir de texte.
Merci.